Entrez sans frapper sur la première.
Les 10 ans.
Notre invité dans Entrez sans frapper aujourd'hui, c'est Aurel San. On est heureux de vous recevoir. Merci d'être là. Bonjour.
Merci, bonjour. Merci beaucoup.
Alors, je rappelle un petit peu, hein, la carrière en solo, en tout cas, ça a commencé en 2009 avec l'album Perdu d'avance. 2011, il y a eu Le Chant des Sirènes. 2017, La Fête est finie, qui a été un succès absolument colossal. Et puis là, vous avez publié Civilisation. Après La Fête est finie, vous avez fait une espèce de petite pause médiatique. Vous êtes retiré des réseaux sociaux. Et puis, il y a eu ce grand retour à travers un documentaire qui est une petite merveille. On va en parler tout à l'heure. Il s'appelle Montre jamais ça à personne. Il retrace en 6 épisodes toute votre carrière professionnelle, finalement, vos passions, vos envies, vos amis, votre famille. Et puis, il y a cet album. C'est quoi le clou sur lequel vous avez voulu taper cette fois-ci?
L'album s'appelle Civilisation parce que je trouve qu'il est pour deux raisons. Dans le sens où je me voyais plus dans la transmission, j'avais envie de sortir un peu de moi et de me dire, tiens, j'ai appris des choses, j'ai plus envie de parler de choses et d'essayer de transmettre. Mmh. Donc, en gros, transmettre des choses à quelqu'un de plus jeune, créer une civilisation. Mmh. Et comme ça parle aussi beaucoup d'amour et de mon couple, le fait d'avoir un enfant, en fait, je finis l'album en disant, j'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Mmh. Donc, ce qui relie un peu les deux, quoi. Mmh. Et donc voilà, en gros, un peu, oui, mon couple, la société. Mmh. Mais c'est un album que j'ai écrit, enfin, j'ai commencé à l'écrire un peu avant, mais j'ai vraiment, vraiment commencé à l'écrire genre le jour où on a été confinés en France pour le Covid.
Ok.
Donc je pense que forcément, ça m'a inspiré, quoi.
Alors la pochette, c'est vous devant un bâtiment qu'on imagine un peu imposant, et il y a un drapeau qui descend de ce bâtiment comme s'il venait d'y avoir une révolution et que les preneurs du pouvoir avaient affiché leur nouvelle effigie. C'est quoi ce drapeau exactement?
Bah en fait, comme l'album est justement un peu décentré de moi, je trouvais ça bien d'avoir une image où je suis dessus, mais je suis pas non plus en train de poser devant le drapeau. Je voulais mettre quelque chose d'autre que moi en avant. Et jamais imaginé cette pochette comme un gars dans un monde un peu post-apocalyptique qui aurait recréé un peu une micronation. J'avais regardé un peu des trucs sur les micronations, ça m'intéressait. Et donc, en gros, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un symbole qui représenterait un peu les thématiques de l'album et un peu genre mon état rêvé.
Après La Fête est finie, vous avez fait un pas de côté parce que l'exposition, elle avait été absolument énorme. Ouais. Vous êtes un peu retiré des réseaux, etc. C'était quoi la volonté d'être oublié ou d'arrêter d'être pollué en permanence?
Un peu des deux. Après, moi, souvent, on me voit pas après mes albums, mais je suis quand même beaucoup en tournée. Je tourne beaucoup. Je tourne quand même pendant 2 ans en général. Donc déjà, ça prend du temps. Et en plus, j'aime bien utiliser mes réseaux quand j'ai de l'info. Je vois quand même mes réseaux comme un truc un peu pro avec forcément un côté perso parce que c'est cool. Mais en général, j'utilise pas mes réseaux quand j'ai pas vraiment d'actualité et j'aime bien faire des pauses. Et même moi, à titre perso, je coupe des fois. Mm-hmm. Je trouve ça assez sain de faire des pauses de réseaux, de voir le monde sans et le monde avec, quoi. Mm-hmm. Après, c'est juste mon truc, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais.
Vous sentez des fois pollué, asphyxié, voire étouffé par toute cette info dégueulasse qui arrive en permanence?
Bah, c'est un peu le sentiment que je voulais décrire dans l'odeur de l'essence, que ce soit dégueulasse ou pas, mais de toute façon, oui, on est sur les réseaux, on a des pubs ciblées, on a des... Comment dire? Il y a aussi un truc, c'est que moi, j'écris des textes et tout est disponible sur Internet. C'est-à-dire, tu veux faire une blague sur un sujet, avec tous les mèmes, tous les trucs, même tous les commentaires YouTube, il y a énormément de choses qui sont dites sur des sujets. Ouais. Donc, des fois, je trouve que pour écrire, c'est bien d'avoir du recul. Par exemple, j'ai fait un morceau qui s'appelle « La quête ». Je connaissais pas la chanson de Jacques Brel.
C'est vrai.
Et donc je tape la quête dans Google à un moment pour voir s'il y a d'autres morceaux et je vois celui de Jacques Brel. Mais peut-être que si j'avais connu celui de Jacques Brel, j'aurais peut-être pas appelé mon morceau La Quête. Et donc des fois c'est un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec les réseaux, mais je veux dire le fait d'avoir toute l'information dispo n'est pas toujours hyper cool pour la créativité.
Effectivement, c'est vrai. La quête, c'est un monument ici en Belgique. C'est un peu notre hymne national.
C'est si fou. Et j'aime beaucoup Jacques Brel et tout. Je ne connaissais pas ce morceau.
Poursuivre l'inaccessible étoile.
Ouais.
Formidable. Il écrivait pas mal. Vous en êtes un peu l'héritier, d'ailleurs,
Merci
Aurélien.
Merci beaucoup.
Il y a un morceau, pratiquement premier tiers du disque qui s'appelle Rêver mieux.
Ouais.
Qui pour moi est un des vrais sommets du disque. Le texte est extrêmement puissant. La mélodie est folle. Je pense que vraiment en concert, ça va être un délire absolu. Genre la terre est ronde, cette histoire. Les réseaux, hein, on court après des chimères de perfection, des rêves de richesse, de beauté. On crée des désirs dans la tête de nos gosses qui sont des désirs de fou, de luxe, hein, d'ailleurs, de vêtements de luxe, etc., etc. C'est de ça dont parle la chanson. Je l'ai bien comprise.
Et complètement. Vous... Et c'est marrant parce qu'à la base, c'est un thème que je voulais pas spécialement aborder parce que je trouvais ça un peu, comment dire, un peu facile, un peu cliché. Et à un moment, j'ai écrit c'est un des seuls textes que j'ai écrit en une ou deux heures, quoi.
Ah ouais.
Parce que j'avais des notes là-dessus et je me suis dit non, mais c'est ça que j'ai envie de raconter, en fait. C'est ça que j'avais envie de dire. Et je trouve l'angle que j'ai choisi, c'est vraiment genre, on a des rêves, certes, qui sont, bien ou pas bien. Enfin, je veux dire, moi qui fais de la musique et qui suis exposé, je rêve aussi de forcément de choses matérialistes, etc. Mais on peut aussi avoir des rêves encore mieux que ça, tu vois.
Ouais.
Et donc, ouais, je voulais parler un peu de tout ça. Surtout le côté, en fait, à force d'être sur les réseaux, on a tendance à oublier que, c'est ce que je dis dans la chanson, que ça ne reflète que le meilleur des autres.
Ouais.
Juste, je suis pas anti-réseau ni rien, je suis beaucoup dessus et tout. C'est juste, ça n'est pas la vraie vie. Ça n'est pas la... Ça n'est pas toujours une vérité, c'est une façon de voir les choses, tu vois.
Ouais, c'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école, hein, d'ailleurs. Et pourtant, l'éducation à l'image, aux réseaux sociaux est encore absolument non disponible dans les classes. Et vous le dites d'ailleurs à un moment, vous parlez pas de ça, mais vous dites l'école, elle apprend aux gamins à fabriquer de l'argent et pas des amis.
Oui, c'est vrai que je trouve qu'à l'école, en tout cas moi,
vous êtes fils de prof, hein.
Ouais, c'est vrai, mon. Ma mère était prof de maternelle et mon père était directeur de collège. Et c'est vrai que je trouve qu'à l'école, on pourrait plus nous apprendre à partager avec les autres. Moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs où on me disait ne copie pas, viens avec ta copie double, ne prête pas tes trucs à ton voisin. Alors que dans la vraie vie, ce que j'ai constaté, par exemple, moi, avec mes potes, on est tous très différents et on s'entraide beaucoup, quoi. On a... des fois des valeurs communes, des fois des valeurs différentes. Et le fait d'être différent, d'en parler, fait qu'on est beaucoup plus, plus fort grâce à ça, quoi.
Bien sûr.
Et après, je trouve qu'à l'école, on pourrait plus apprendre à bosser ensemble, quoi.
C'est une vérité, hein, parce que le secret de la vie, c'est la solidarité. Il n'y a pas d'autre issue, hein, de toute façon, à la prochaine civilisation que la solidarité. La chanson qui suit Rêver mieux dans le disque, elle s'appelle Seul avec du monde autour.
Ouais.
Et c'est un peu une chanson qui répond très bien à Rêver mieux. Rêver mieux, c'est les paillettes, c'est les chimères, etc. Mais la réalité de votre travail, derrière évidemment l'exposition, le fait que vous soyez pratiquement une icône aujourd'hui, Aurélien, une star, les stades, les albums, les vidéos YouTube vues à des millions d'exemplaires, c'est évidemment, c'est du travail. Et vous réexpliquez que c'est pas juste des paillettes, quoi, que c'est du travail tout le temps et que ça vous rend heureux.
Ouais, exactement. Je voulais réfléchir un peu à la notion de travail et je trouve qu'on a beaucoup tendance à assimiler le travail à la souffrance et à c'est dur. Et moi, je me suis rendu compte que je pouvais faire de la musique, que vraiment je travaillais tous les jours et que je kiffais, en fait. Ou même que je travaillais des choses, par exemple, j'aime bien le basket. Des fois, je me lève, je travaille mon shoot. C'est un travail, mais je kiffe. Ou même mon couple. Au début, je voulais pas accepter qu'il fallait travailler un peu son couple. Et du coup, c'est un peu ça que je voulais raconter. Justement, le morceau Rêve mieux, il est un peu dans, comment dire, un peu dans la dénonciation, tu vois. Et du coup, il n'y a pas les solutions. Et c'est pour ça que j'ai mis Seul avec du monde autour, derrière, qui est un peu aussi mon idéal de vie. Genre, j'aime bien être seul des fois, mais j'aime bien être aussi avec du monde. Et du coup, je vois plus comme un truc positif, un peu. Genre, des fois, j'ai besoin d'être seul et il y a quand même des gens qui sont là et c'est ma vie un peu rêvée, quoi.
Alors, nous, on a élu votre chanson Paradis, meilleure chanson du monde sur l'amour heureux.
D'accord.
Dans
merci.
Cette émission. Et là, ici, il y a la suite, finalement, de Paradis. Et on y viendra tout à l'heure. C'est le couple qui existe depuis plusieurs années et où on se rend compte que l'autre n'est pas parfait, que nous, alors là, évidemment, Aurélien, on est loin de l'être aussi et que c'est un travail aussi de s'aimer.
Ouais, exactement. Ça me fait plaisir que vous ayez compris ça parce que la chanson Paradis, c'est une chanson d'amour qui est genre, c'est le moment où t'es le plus amoureux et qui n'est absolument pas réaliste, mais qui est un sentiment aussi qui existe, tu vois.
Bien sûr.
Mais je me suis dit, il y a aussi l'autre sentiment qui est. ok, t'es en couple depuis longtemps, et puis à un moment, tu te dis, oh, c'est compliqué en ce moment. Ouais. Et le fait de... Je trouve que dans la musique, il y a beaucoup de chansons de rupture. Il y a énormément de chansons de rupture. Et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de chansons de « Viens, c'est un peu compliqué, mais on reste ensemble. » C'est le refrain d'ensemble où je dis « Viens, on reste ensemble. » Et je trouve que c'est aussi fort, en fait, comme sentiment de se dire « Allez, on va y arriver. »
Ah ouais. Et je peux vous dire que ça nous parle à tous. Hein. Ma femme, quand elle entend « Paradis », elle me dit, mais vraiment, je pense que toutes les femmes du monde auraient rêvé qu'un homme écrise ça sur elle. Je rappelle, vous dites hein, dans Paradis, je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, c'est ça de pris, ça fait toujours plus de toi. Je trouve que c'est vraiment une très, très, très grande phrase.
Merci beaucoup.
On revient sur Civilisation, Orelsan, avec vraiment ce qui est pour moi le cœur du disque, c'est deux morceaux qui sont en plein milieu de l'album. C'est d'abord Manifeste. Vous vous retrouvez, vous allez retrouver votre pote Mickey dans une manif. Vous savez même pas qui vous a donné rendez-vous dans une manif. Vous en avez rien à foutre parce que la seule fois que vous avez manifesté, c'était pour avoir des jours de congé à l'école. Et puis... La manif, allant, vous allez rester parce qu'on y boit de la bière et que les potes sont là, qu'il y a une ou deux filles qui sont dans le coin, Mathilde et France. Et France, elle va expliquer quand même qu'elle est mère célibataire, infirmière, qu'elle a du mal à boucler les fins de mois et qu'en plus de ça, elle doit aussi s'occuper de sa retraite. Et il y a une espèce de conscientisation du personnage pendant cette chanson Manifeste. Comment ça naît, une espèce de morceau de bravoure, parce que le morceau se passe en direct dans la manifestation. Mm-hmm. Comment ça naît ce genre de morceau ?
Comment ce morceau est né? Déjà, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et je voulais un morceau un peu qui symbolisait aussi une prise de conscience. Le morceau est né tout simplement du fait qu'il y avait beaucoup de manifestations.
À ce moment-là.
À ce moment-là. Et donc voilà, je me posais des questions aussi sur comment dire, les manifestations, l'engagement des gens. Et j'avais envie aussi de faire une vraie fiction. Ça veut dire ce morceau, c'est de la pure fiction.
Pure fiction.
Pure fiction.
C'est un film.
C'est un film avec des persos qui n'existent pas, qui n'est même pas basé sur une histoire qui aurait pu m'arriver du coup. Donc c'est vraiment une pure fiction. Et j'avais envie, ouais, de raconter cette histoire. Et je trouve que c'était intéressant de. Je me suis dit, où est-ce que plein d'endroits avec plein de gens avec des opinions différentes peuvent se retrouver. Et je trouvais ce lieu d'une manif intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas spécialement musical. Je veux dire, on me dit tout de suite, oui, il a fait une chanson sur une manif, tu te dis, ah bon. Et donc, je trouvais ça fun d'essayer d'illustrer ça et de vraiment raconter un storytelling. Et je trouve les bonnes histoires, c'est celles qui ont une évolution. Et le fait de voir ce gars au début qui s'en fout complètement, quoi, et prendre conscience petit à petit, c'est un truc qui est complètement fictionnel, mais je me suis quand même basé sur genre des gens qui existent. Par exemple, ce perso de France, je me suis inspiré un peu de ma grand-mère, elle est en EHPAD, et je me suis inspiré un peu de filles qui bossaient là-bas, avec qui j'avais parlé et tout. Je me suis dit, ah ok, d'accord, elle voit ça comme ça. Enfin, je me suis quand même basé sur des trucs qui existent, tu vois, et je trouvais ça fun de mettre ces persos là-dedans. Quoi.
Juste après Manifeste, il y a L'odeur de l'essence, qui est un morceau très clairement inflammable, qui va parler de notre époque, des médias, évidemment, c'est une espèce de charge absolue contre les médias et contre cette époque où tout le monde critique, mais personne ne nuance, époque extrêmement manichéenne où soit c'est blanc, soit c'est noir, et que les médias viennent se nourrir sur toutes les carcasses qu'ils peuvent trouver. Le jour où vous avez mis cette vidéo sur YouTube, c'est le morceau qui a annoncé le disque, ça a été une espèce d'événement. Tout le monde a parlé de ce morceau, c'était pour moi même un choc, une espèce de révélation, c'est le morceau que j'avais envie d'entendre maintenant. Est-ce que ça vous a ému, surpris qu'un morceau qui n'est pas un morceau radio du tout fasse un tel phénomène ?
Moi j'étais dans la sortie du morceau, tu sais, c'est genre on finit le clip la veille, j'étais super super content quoi, super surpris qu'il y ait autant d'engouement autour du morceau. Je pense que c'est le clip que j'ai posté qui a pris le plus de vues en 24 heures.
Dingue.
Et donc ouais j'étais hyper content, et ce qui était fou c'était de voir tous les débats autour, et ouais j'étais vraiment content.
Est-ce que vous reconnaissez du talent, Aurélien? Il y a une phrase formidable dans le disque. J'ai des éclairs de génie, mais dans le fond, je suis teubé.
Ouais, je me vois vraiment comme ça.
C'est vrai.
Ouais, et je pense que beaucoup de gens peuvent me voir comme ça. Non, je veux dire, en fait, comment dire, tous pour parler clairement de, par exemple, mon processus musical, je fais beaucoup de chansons pour arriver à 15 morceaux sur un album. Et donc, j'en fais plus des mauvaises que des bonnes. Mm-hmm. Pour peut-être arriver à ces 15 bonnes chansons, j'en ai peut-être fait 80. Mm-hmm. Donc, tout ce que je fais n'est pas génial. Je me considère pas comme un mec hyper talentueux qui, tout ce qu'il fait est génial, ouais. Tu vois. Et puis aussi, je pense que je suis bien entouré. Ça veut dire ça se voit clairement dans le doc. Je bosse avec Scred, je bosse avec Ablai, il y a mon frère qui est là, il y a Grinch qui est là. C'est quand même un truc. Je demande beaucoup d'avis aux gens. Ça veut dire, même quand je parle, par exemple, ce morceau de Manif, c'est peut-être une idée que je traîne depuis 6 mois et j'en ai parlé avec des gens et j'ai l'impression d'être plus une espèce d'éponge où je fais des, comment dire, je demande aux gens, je fais des synthèses et c'est ça qui finit. Donc, j'arrive pas à me, évidemment, je pense que ma musique est bien, tu vois. C'est vrai que, ouais, j'arrive pas à, enfin, je c'est pas que moi, quoi, c'est un ensemble.
Bien sûr. C'est un collectif et on le voit très très bien, hein, dans Montre ça à personne. Et on va en parler un peu, ce docu qu'il faut à tout prix voir, je trouve, parce que ça montre l'espèce de fidélité que vous avez aussi, et ça montre évidemment les qualités humaines, je pense, que vous avez tout simplement, Aurélien, et la bande du début est déjà la bande du milieu, hein.
Ouais.
Et sera probablement la bande de la fin. Et c'est extrêmement émouvant, évidemment, de voir ça, la manière dont vous vous soutenez, vous allez rechercher l'un et l'autre quand les choses semblent aller plus mal, même si vous ne le montrez pas, mais on le sent en regardant le documentaire. C'est extrêmement émouvant. J'aimerais parler un petit peu de ce que vous représentez aujourd'hui, même si ça doit être un peu étrange pour vous. Nous, on fait ce métier tous les jours et franchement, nos enfants, ils nous demandent jamais de venir, alors qu'on reçoit tout le monde dans ces émissions. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'était terrible. Donc vous représentez quelque chose pour la génération des gens qui ont entre 15 et 25, 30 aujourd'hui, et même plus, hein, parce que vous êtes extrêmement rassembleur. À votre avis, pourquoi vous ?
J'aime croire que je fais des bonnes chansons.
Ouais.
Déjà,
je pense que c'est le cas.
Qui reste en tête, et que je pense aussi mes albums ont une sorte de continuité qui fait que on sent une évolution, et je pense qu'on suit un peu mes albums comme une série, mais qu'évoluerait un peu avec nous, tu vois. Et donc, ça va faire peut-être maintenant 15 ans que je fais de la musique et que je la mets en ligne. Et je pense que beaucoup de gens ont évolué. Et ce qui est fou maintenant, c'est que je croise des personnes de 72 ans, qui me disent, j'ai écouté votre album, et vraiment, je sais qu'ils l'ont écouté, je vois que c'est pas un mensonge. Et encore des enfants de 11-12 ans qui aiment ma musique, quoi. Et donc, je pense que, du coup, on peut écouter la musique en famille et tout. Et je sais pas pourquoi, je saurais pas le dire. Mais si, aussi, parce que aussi, comme je disais avant, on a un groupe de personnes, je bosse avec plein de gens. Et puis aussi, j'essaie de sortir des morceaux qui parlent aux gens, quoi.
Ouais. Et c'est vrai que normalement, quand on plaît à la fois aux gens de 11 ans ou 72 ans, on est suspect.
Ouais. oui, grave. Mais
et ben, pas vous. C'est non, mais, fou, parce mais que vous genre... avez à chaque fois l'extrême crédibilité et ce public bigarré, quoi.
Ah bah merci, ça me fait plaisir. Mais je fais en sorte justement de quand même essayer de rester. Enfin, de faire de la musique qui me plaît. Aussi, ça, des fois, c'est juste égoïste, ça passe par moi. Je me dis, moi, je veux faire ça comme musique, je fais ça, quoi.
Comment vous faites pour rester normal ?
Je sais pas comment dire. Moi, de toute façon, ce que j'aime bien, c'est faire des projets, c'est faire de la musique. Et
c'est travailler.
C'est écrire. J'ai encore envie de faire des films, de faire des clips. Et donc, en fait, c'est ça mon moteur. Mon moteur principal, c'est ça. Même si après, je suis content aussi. Je veux dire, ça flatte toujours mon ego de rencontrer les gens. Mais mon moteur, c'est d'être sur scène, faire de la musique. Après, le reste n'est pas ma priorité. Donc, je pense que c'est ça qui fait que, vu que je m'intéresse que à faire de la musique et être sur scène, je pense que c'est ça qui me rend normal, entre guillemets, bizarrement.
Dans le documentaire qui est réalisé par votre frère, Clément, le documentaire s'appelle « Montre jamais ça à personne », 6 épisodes de 40 minutes, 45 minutes à peu près, où on va vous voir du tout début, je veux dire, avant même que ça commence.
Ouais.
Votre frère, il est fou, hein, d'ailleurs, de se dire, il a parié sur vous quand même, parce qu'il vous filme tout le temps, dès le début, et on peut pas dire que vous soyez ultra motivé au début. Une chance qu'il y a Scred, qui a un peu d'énergie et qui va tirer tous les autres, parce que sans lui, on réalise qu'en fait, rien ne serait arrivé, je pense que vous, vous seriez encore en train de jouer à la PlayStation, probablement sans lui, même s'il y avait des envies. Mais il vous fallait probablement un coup de pied au cul, et c'est lui qui l'a donné à toute la bande. Et ce qui est extrêmement, déjà c'est extrêmement marrant ce docu, on rit beaucoup, mais c'est aussi extrêmement émouvant parce qu'on voit cette bande d'amis extrêmement soudés. Vous citez leur nom ici même au début de Civilisation, vous citez leur nom, c'est important de dire le nom des gens, et vous le faites d'ailleurs dans le disque. Ça représente quoi l'amitié pour vous? C'est quelque chose qui est vraiment au centre de votre vie encore, même en prenant des années?
Ouais, pour moi c'est super important. J'ai beaucoup d'amis et j'ai la chance aussi d'avoir beaucoup d'amis avec qui je travaille et qu'on a monté ce truc ensemble. Et je pense que s'il avait manqué un seul élément de notre groupe à n'importe quel moment, l'aventure n'aurait pas été la même et je pense qu'elle aurait été moins bien. Et je bosse énormément avec Scred, qui réalise les albums, qui fait les musiques, et on se complète parfaitement alors qu'on est très différents. Il y a Blake qui est là aussi, il y a mon frère, et on voit qu'on a tous une évolution tout en restant dans on n'a rien à voir, on n'est pas des, on n'a pas les mêmes caractères, on non. vient pas forcément du même endroit et tout, et c'est vrai que ça marche quoi.
Il y a un moment hilarant dans le documentaire avec votre maman, ce que vous montrez votre famille, votre grand-mère. Il y a un morceau un moment formidable où elle chante, elle est dans le public évidemment, au Zénith à Caen, si ma mémoire est bonne.
Exactement.
Et cette salle chante avec elle. C'est un moment extrêmement émouvant. J'imagine que pour vous, évidemment, c'est très fort. Et puis il y a votre maman qui explique que la première fois qu'elle vous a vu sur scène, elle s'est dit il est drogué.
Ouais.
Parce que notre fils n'a pas autant d'énergie que ça. Elle vous redécouvrait.
C'est fou. Et je l'ai appris il y a pas longtemps, j'ai appris des choses avec ce documentaire. Et c'est vrai que mes parents, ils s'inquiétaient quand même pas mal pour moi parce que quand j'étais dans la vie active avec un job, j'étais donc veilleur de nuit.
Ouais.
Et en fait, j'ai cette façon de parler qui fait que je suis un peu mou et puis j'aime bien l'ironie. Des fois, on peut croire que je me fous de tout. Donc je pense qu'ils s'inquiétaient pas mal. Et la première fois qu'ils m'ont vu sur scène, je sais pas, ils devaient être dans ce cliché de la musique où tout le monde est drogué. Ils se sont dit, mais c'est pas lui, quoi. Il est trop différent. Mais il y a un truc, c'est qu'aussi, moi, dans mon entourage de base où j'ai grandi, on connaissait pas trop d'artistes. J'avais personne autour de moi qui vivait vraiment de, même je crois que je connaissais un mec qui était caméraman à la télé et rien que ça. Je me disais, waouh, c'est fou.
C'est énorme. Ouais.
On était vraiment sur un truc où on connaissait pas du tout ce milieu, quoi.
Ça vous fait quoi la scène? Parce qu'effectivement, c'est complètement transfigurant. Il y a quelques images d'ailleurs dans le documentaire. C'est une transfiguration, quoi. C'est comme une cape de super-héros, quoi.
Ouais, exactement. C'est vraiment un moment où je me sens bien, où surtout qu'en général, je répète beaucoup. Je connais mes morceaux. On élabore les morceaux différemment, et c'est vraiment le moyen de redonner vie aux morceaux. Et c'est super important pour moi. Et c'est du kiff pur, quoi. Et ce qu'on peut voir dans le doc, c'est qu'au début, c'était la cata. J'étais pas bon sur scène et il a fallu aussi taffer ça, quoi.
Il a fallu travailler, hein. C'est un des mots clés, hein, je pense.
Ouais. Même si ça fait un peu relou.
Ouais, mais
c'est vrai qu'il y a du travail derrière.
Faut savoir clairement. On a parlé de Jacques Brel tout à l'heure. On a un autre Jacques Brel en Belgique, évidemment, qui s'appelle Stromae. Vous avez largement collaboré, évidemment, avec Paul. Vous aviez collaboré sur Racine Carrée. Il y a eu La Pluie sur votre disque. La Fête est finie, etc. etc. Vous avez écouté, j'imagine, Santé, ça vous plaît?
Ouais. Bah moi de toute façon, je suis fan de Stromae. J'ai aucune objectivité.
Moi non plus.
Stromae, je connais beaucoup de chanteurs, etc. Mais Stromae est un mec que je suis fan et que quand il sort des morceaux, je les écoute en boucle. C'est plus fort que moi. Toute sa musique me touche.
Ouais. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a? Comme vous, hein. Mais là, on va pouvoir parler de quelqu'un d'autre, donc ce sera probablement plus facile pour vous. Mais tous les deux, vous avez ce point commun de n'être comme personne d'autre.
Bah lui, il a une cohérence dans sa musique et dans ses paroles, et il a une sorte de background culturel qui me touche en plein cœur, et l'ensemble, et c'est comme si tout était bien agencé ensemble, et je ressens une sorte de plénitude quand j'écoute Stromae. Au-delà de ça, pour avoir travaillé avec lui, lui, il a vraiment une forme de pur génie que, par exemple, je vais faire une mélodie. Lui va faire une autre mélodie auquel j'aurais jamais pensé, qui va défoncer et qui va, je sais pas, toucher un truc. Il a un génie de la mélodie dans ses instrus et dans ses morceaux.
Merci Aurélien d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
C'était un vrai plaisir de vous parler. Et félicitations encore pour cet album Civilisation. Allez évidemment tous l'écouter. Merci.
Merci beaucoup, merci.
Entrez sans frapper sur la première.
Les 10 ans.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.